place publique. L'enseignement de la musique est sous pression financière dans le canton de Neuchâtel. L'avenir de plusieurs institutions est remis en question. Notre entretien dans un instant avec la conseillère d'État neuchâteloise Monica Merefti. La maison Wenger au Noirmont a réouvert jeudi dernier. Au fourneau, son nouveau chef, Jérémy Desbrault. Il est notre invité dès 18h30. Enfin, nous vous proposons un reportage exceptionnel réalisé au Liban par notre correspondant à Berne, Jérôme Favre. Il sera question des enfants syriens, première victime de la pire catastrophe humanitaire au monde.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Quel avenir pour l'enseignement de la musique dans le canton de Neuchâtel? Ces dernières semaines, le sort de plusieurs institutions est remis en question, voire compromis, que ce soit au Locle, à la Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel. Et cela concerne autant les filières destinées aux amateurs qu'aux professionnels. On en parle avec Monica Merefti, conseillère d'État en charge du département de la formation. Nous lui avons demandé tout d'abord quand est-ce que les citoyens neuchâtelois voteront sur la fermeture de la Haute École de Musique.
Ce sera encore cette année. Le Conseil d'État l'avait décidé et affirmé très clairement lors des débats du Grand Conseil. Ce sera probablement novembre.
Alors, rendez-vous est pris au mois de novembre. Bon, ces derniers temps, c'est plutôt l'enseignement de la musique au niveau scolaire qui fait parler de lui, avec la ville de la Chaux-de-Fonds, qui imagine un rapprochement entre le collège musical et le conservatoire. En gros, les autorités de la métropole horlogère verraient d'un bon œil que ce soit le canton de Neuchâtel qui reprenne à son compte les activités du collège musical. Ça représente quelques 400 élèves. Est-ce que ça correspond aussi à votre vision, à votre volonté?
Alors, tout d'abord, réaffirmer que le Conseil d'État voit bien l'importance qu'il y a à promouvoir l'enseignement musical, mais plus précisément, peut-être l'initiation à la musique dès le plus jeune âge de nos élèves. Et puis ensuite, aussi dire que le Conseil d'État a toujours laissé la porte ouverte à une discussion avec la ville de la Chaux-de-Fonds, notamment pour réfléchir ensemble qu'est-ce que le conservatoire, dans ce cas précis, peut offrir de plus à la ville de la Chaux-de-Fonds qu'aujourd'hui. Je crois que la présence du conservatoire doit être réaffirmée sur l'ensemble du territoire cantonal et plus précisément ouvrir en tout cas une réflexion pour une présence plus accrue au niveau de la ville de la Chaux-de-Fonds.
C'est vous-même à l'État qui êtes à l'initiative de ces pourparlers?
Alors, nous sommes à l'initiative de ces pourparlers parce que nous avons dit, mais effectivement, nous voulons collaborer avec la ville de la Chaux-de-Fonds dans la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Mais on a aussi toujours été très clair que nous ne pourrions pas absorber telle quelle l'activité du collège musical. Il faudrait que nous puissions le faire dans les moyens qui nous sont donnés, c'est-à-dire avec un certain budget qui ne peut pas être dépassé. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le budget du conservatoire est à peu près à hauteur de 7,5 millions, ce qui nous permet quand même déjà de déployer une certaine activité sur l'ensemble du territoire cantonal.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'une telle reprise, donc la reprise du collège musical par le conservatoire, sans toucher aux prestations, c'est impossible?
Alors effectivement, sans toucher aux prestations qu'aujourd'hui est déployée par le collège musical est impossible pour le canton. Mais néanmoins, je pense qu'on peut trouver des solutions ensemble, comment on peut offrir aussi à la population de la Chaux-de-Fonds une initiation et un enseignement musical qui effectivement peut aussi susciter des talents, qui peut susciter des envies d'embrasser une carrière musicale.
Le collège musical tourne sur un budget d'environ 900 000 francs. La reprise telle qu'elle reviendrait à peu près à 1 million de francs. Ça, c'est pas possible d'ajouter ce million ou quelques 7 millions dont vous avez parlé?
Je crois que la vocation vraiment de l'État et de déployer une activité sur l'ensemble du canton. Aujourd'hui, nous nous interrogeons effectivement sur la répartition de nos élèves. On sait que les élèves du haut du canton sont environ le tiers des élèves du conservatoire. Donc ça veut aussi dire qu'on a tout un travail de promotion à faire pour rendre le conservatoire accessible aux montagnes neuchâteloises.
Est-ce que ça se ferait pas aux dépens du collège musical? On le rappelle, 400 élèves avec une une devise, hein, la musique pour tous. Est-ce qu'une absorption d'une partie de ces activités, puisqu'on a bien compris que vous ne pouviez pas tout reprendre, ne se ferait pas aux dépens d'un accès à la musique pour les revenus les plus modestes?
Nous avons revu l'ensemble du mode de financement du conservatoire, c'est-à-dire notamment la facturation aux parents en fonction de leur capacité contributive. Ce qui permet notamment aussi aux plus bas revenus d'avoir accès à la musique et notamment de pouvoir financer des cours de musique à leurs enfants. Je crois que c'est vraiment un aspect qui est important, qui est intervenu lors de cette législature, mais évidemment que nous ne pouvons pas concurrencer avec le prix du collège musical qui était fortement subventionné par la ville de La Chaux-de-Fonds. Donc c'est bien là, aujourd'hui, qu'on a ouvert une discussion de voir comment on peut conserver les intérêts des uns et des autres. Mais là aussi, encore une fois, on doit être clair, on ne pourra pas absorber telle quelle l'activité du collège musical.
Alors il y a une décision très attendue, c'est celle de la fermeture ou non de la Haute École de Musique. Est-ce qu'une partie de l'argent économisé par la fermeture de la Haute École de Musique pourrait être réinjecté dans cette reprise des activités?
Je rappelle que la fermeture de la Haute École de Musique est une décision qui est intervenue dans un programme d'assainissement des finances. Donc l'idée, c'est véritablement de pouvoir faire des économies dans ce domaine-là. C'est vrai que c'est toujours regrettable pour un canton et notamment pour le Conseil d'État de devoir proposer de telles mesures. Maintenant, on connaît aussi la situation financière du canton de Neuchâtel et je crois qu'on doit composer et trouver des solutions ensemble pour pouvoir sortir de cette situation-là. Je ne pense pas qu'on prétérite quelque part les élèves neuchâtelois qui aimeraient embrasser une carrière professionnelle dans la musique. Nous offrons d'autres possibilités. Nous avons notamment mis en place un programme sport-études qui est aussi sport-art-études et souvent on oublie l'art et là aussi nous avons des élèves qui bénéficient notamment de cours spécifiques pour promouvoir la formation musicale et de les amener à un niveau qui leur permette ensuite d'entrer dans une haute école de musique.
Et donc ce ne sera pas un argument de campagne pour ou contre la fermeture de la Haute École de Musique que d'assurer aux Neuchâtelois que s'ils perdent quand même sur leur territoire une filière professionnelle supérieure de haute école, ils pourront par contre compter sur un accès à la musique scolaire à bas prix comme c'est le cas par exemple au collège musical.
Alors je crois qu'il faut rappeler que sur le canton de Neuchâtel nous avons plusieurs acteurs qui offrent des possibilités de s'adonner à la musique. Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est fanfare, chœur, haute école privée. Je crois qu'on a dans notre canton plusieurs écoles privées qui offrent notamment un accès à la musique pour chacun. Mais je crois que le rôle d'un canton, c'est effectivement aussi de promouvoir l'accès à la musique, l'intérêt des plus jeunes à l'art musical. Et je trouve vraiment que c'est important qu'on puisse réaffirmer cette volonté-là. Et d'ailleurs, nous l'avons inscrit dans le programme d'études romans, ce qui est clairement aussi le rôle de l'école, c'est d'offrir une formation musicale dès le plus jeune âge.
Est-ce qu'une partie des enseignants du collège musical ont du souci à se faire ou vous leur conseillez de consulter dès maintenant les annonces d'emploi dans d'autres cantons, par exemple? Parce qu'à partir de quand la décision, selon vous, doit être prise?
Alors, nous travaillons de concert avec la ville de La Chaux-de-Fonds, mais je rappelle que le collège musical est vraiment une institution de la ville de La Chaux-de-Fonds, donc c'est les collaborateurs de la ville de La Chaux-de-Fonds. Et nous, aujourd'hui, on a ouvert une discussion avec les autorités pour pouvoir trouver des solutions ensemble.
Est-ce que vous avez fixé un délai?
La ville de La Chaux-de-Fonds ne nous a pas fixé de délai, donc c'est vraiment une compétence communale de dire à quel moment ils souhaitent une nouvelle orientation du collège musical.
Mais vous, plus généralement Monica Merefti, sans une mobilisation accrue des Loclois, la musique scolaire au Locle aurait pu passer à la trappe. Pourquoi, selon vous, l'enseignement de la musique, quel que soit le niveau, est autant sous pression au niveau financier dans le canton de Neuchâtel, alors qu'il n'y a pas si longtemps, la population validait très largement le principe constitutionnel qui visait précisément à encourager la formation musicale?
Je crois clairement, on doit le dire, nous avons aujourd'hui toute une panoplie d'offres sur le territoire cantonal. Je crois qu'il est important de réaffirmer cette volonté aussi de la population neuchâteloise à avoir accès à la musique. Mais je pense que nous devons aussi là entamer des réflexions pour dire qu'on ne peut plus tout offrir, mais qu'on doit faire un choix. Et malheureusement, nous sommes dans une période où nous devons faire des choix et les assumer.
Place publique. Gabriel Devec.
Noix de Saint-Jacques, dorée au poêlon, fumée terre-mer à la Syrah du pays, ou encore une royale de scorsonnaire à la crème des Russies, légumes d'hiver croquants et truffes noires au vieux Madère. Bon, voilà de quoi nous faire saliver et nous ouvrir l'appétit ce soir. En tout cas, ce sont deux des plats qui ont ébahi et régalé les quelques 50 convives présents jeudi dernier au Noirmont pour le premier service délivré par Jérémy Desbrault. Le nouveau chef du restaurant de la Maison Wenger, âgé de 32 ans, a repris l'établissement avec sa compagne Anaëlle Rose. Ils succèdent tous deux à Andrea et Georges Wenger. Leur défi, pousser toujours plus loin les limites de l'excellence pour un restaurant qui compte, on le rappelle, 18 points Gomio sur 20 et 2 étoiles au guide Michelin. Jérémy Desbrault, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'être avec nous. Également merci présent bien. Dans Place Publique, Knut Schwander, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes
bonsoir, Schwander.
Bonsoir à tous les deux. Donc, Knut Schwander, vous êtes responsable Gomio pour la Suisse romande. On commence avec vous. Vous étiez présent à ce premier service. Et dans votre critique publiée en ligne sur Gomio, vous parlez d'un triomphe, des convives sans voix, ébahis. Pourquoi une telle dithyrambe ?
Alors, simplement parce qu'elle s'impose. D'une part, c'est un restaurant qui a une histoire. Georges Wenger a réussi à le situer sur la carte de la gastronomie européenne, suisse d'abord, européenne ensuite. La reprise, c'est un événement. Je pense que Jérémy Desbrault et sa compagne Anaëlle ont montré que cette table restera une grande table de la région.
Jérémy Desbrault, vous entendez ces éloges, vous les avez lus, j'en suis sûr. Comment vous avez vécu ce moment, on imagine, très intense ?
Le premier service ou l'article de M. Schwander ?
Alors, les deux, le premier service d'abord.
Le premier service, on n'a pas tout compris ce qui nous arrivait. Ouais, on était vraiment la tête dans le guidon depuis une semaine pour préparer ça. Et voilà, on a fait ce qu'on savait faire avec on a fait notre métier, tout simplement. Voilà, on a du mieux qu'on pouvait par rapport au temps qu'on avait, et par rapport aux clients qui étaient présents dans la salle.
Et vous placez la barre d'entrée de jeu très haut avec des critiques louangeuses, on l'a dit. Est-ce que ces critiques d'en prendre connaissance, c'est un encouragement ou plutôt une pression extrêmement forte ? J'imagine que c'est un peu des deux.
Un peu les deux, oui, exactement. Oui, c'est un encouragement parce qu'on s'est dit que voilà, ça démarre bien, les clients sont contents, les guides nous suivent, mais moi ça rajoute de la pression parce que maintenant qu'on a démarré avec un article comme ça, je pense que les clients vont nous attendre au tournant.
Et surtout que vous le dites, maintenir le niveau jour après jour, service après service, oui. c'est ça qu'on vous demande, c'est le véritable défi, c'est une constance.
Oui. Oui, oui, moi j'accorde beaucoup d'importance à ça. Quand je parle, les gens ils me disent ouais, c'est fabuleux ce que vous faites, c'est génial. Nous on n'y arrive pas à tout. Non, ce qu'on fait c'est, au quotidien, il y a rien d'extraordinaire, il y a rien de compliqué. Ce qui est dur, c'est vraiment de le faire, de le répéter tous les jours, deux fois par jour, et puis 5 jours par semaine, de servir la même assiette du mercredi matin au dimanche soir, quel que soit le stress, le nombre de couverts et puis l'état de fatigue qu'on a.
Knut Schwander, en tant que critique gastronomique, comment vous imaginez la suite pour cet établissement ? Est-ce que Jérémy Desbrault et sa compagne ont le potentiel pour atteindre encore un niveau supérieur ? On pense bien sûr à se situer sur pied d'égalité avec l'hôtel de ville à Crissier. Sur quoi se joue la différence et est-ce qu'elle est atteignable ?
Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que maintenant, il faut les laisser arriver. Ce qui est fantastique, c'est que ce sont deux personnalités qui, d'une part, sont rayonnantes, et puis d'autre côté, on vient de l'entendre, sont remarquablement modestes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut relever. Il n'y a aucune prétention dans cette cuisine, il n'y a que le plaisir de faire plaisir. Donc l'avenir, on va le laisser s'écrire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une belle maison, qu'elle a été magnifiquement rénovée, qu'à l'évidence, il y a plein de compétences en cuisine comme en salle. Ils ont tout mis en place pour que les choses se passent bien. Laissons-les arriver, laissons-les s'installer. Il ne faut pas vouloir mettre la pression, donner des notes tout de suite. Ce serait une grossière erreur. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut surtout y aller, je dirais, en tant que public, parce que c'est une table qui vaut la peine d'être découverte.
Jérémy Desbrault, vos prédécesseurs, c'est des décennies de fidélité au Noirmont. Vous-même, comment vous voyez votre parcours maintenant que vous venez de réouvrir ce restaurant ? Pour vous, c'est un projet au long cours ?
Oui, bien sûr. On a 30, moi 32 et puis ma compagne 31. Donc oui, on est installé au Noirmont pour 30 ans, comme je l'ai dit, depuis le début.
30 ans avec un objectif qualitatif, on l'a dit, quantitatif en termes de notes, puisque Le grand public, les médias attribuent beaucoup d'importance à ces classements, on va en parler. Est-ce que pour vous, c'est comme ça que vous arriveriez à chiffrer votre objectif ?
Alors non, pas du tout. Quand on arrive cuisinier, quand on reprend un établissement celui-là, le premier but c'est pas on se dit pas on va avoir 18 ou 19 sur 20 au Bohémio ou quoi que ce soit. Sinon on va droit dans le mur. Le but c'est vraiment de faire plaisir aux clients, que le restaurant soit rempli et que les gens aient envie de revenir. Et puis les guides, bien sûr que oui c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui s'identifient à ça. Mais ça ne doit pas être un objectif dans un premier temps. Le premier objectif, c'est vraiment de faire plaisir aux clients, que les clients aient envie de revenir, qu'ils se sentent bien à la maison. Et puis les guides, bien sûr que si on a les récompenses, c'est qu'on les mérite. Et après, voilà, il faudra vivre avec. Et puis, mais le premier but, voilà, c'est vraiment le client en premier, quoi.
Quand on pense à ces classements et à leur importance, on pense bien sûr à qui vous vous adressez, à quel est votre public, qui sont vos clients. Ce n'est pas seulement des notables ou des gens en mal de distinction.
Non, bien sûr pas. Non, là on touche vraiment une clientèle vraiment très 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 large. Je vois, il y a vraiment de tous horizons pour tous les budgets de partout. Ça va des personnes âgées qui économisent pendant une année pour se faire plaisir ou les jeunes même qui économisent pour se faire plaisir à des gens qui ont plus de moyens et puis qui vont pouvoir venir toutes les semaines au restaurant. Ça s'adresse, c'est vraiment une clientèle très très large.
La dernière édition du Guide Michelin pour la France a fait sensation ces derniers jours avec des chefs illustres, rétrogradés, comme par exemple Marc Vera qui perd sa troisième étoile et qui dénonce une injustice et d'autres qui estiment dans la foulée que ce guide Michelin a fait son temps. Jérémy Desbrault, quel regard vous posez de manière plus générale sur la critique gastronomique ?
Ça fait partie du job. Voilà, ça fait partie du boulot. Il faut faire avec, il faut vivre avec. Mais je pars d'un principe que si on fait notre travail sérieusement et correctement, voilà, les critiques seront positives. Si les critiques sont négatives, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à un moment ou à un autre.
Knut Schwander, est-ce qu'on assiste à un tournant par rapport à la manière d'accueillir l'excellence dans la gastronomie, de la noter, de la proposer au public ?
Alors, je ne pense pas. Ce qui est important, c'est que un guide reste ouvert à tous les lecteurs, c'est qu'il ne se profile pas en un livre ou en un site internet exclusif. Ce qu'il faut viser, c'est la qualité, c'est traquer le talent et surtout ne jamais vouloir commencer à traquer l'erreur parce que ce serait justement une grosse erreur aussi de la part d'un guide. Les lecteurs veulent de l'excellence, ils veulent de la qualité, de l'excellence. Dans le Gomio, on a des notes qui vont de 12 à 19. Ces notes, elles sont là comme des repères. Mais il n'y a que des bonnes tables dans le Gomio. C'est ce que j'aime toujours répéter, c'est que on cherche l'excellence à tous les niveaux.
Mais dans votre critique, on peut la lire, on lit quand même pas des pics, mais on lit quand même des nuances, un peu comme quand on lit un certificat de travail, on peut lire entre les lignes. Vous parlez, par exemple, pour ce premier service qui était extrêmement difficile, encore une fois, extrêmement réussi aussi, d'un problème de tiédeur pour certains des aliments. C'est-à-dire que vous notez quand même des imperfections pour bien montrer que...
Mais parce que c'est important, ça rend service, j'espère.
Cuisinier. Il doit être impartial.
Oui, parce que c'est une information. Après, de nouveau, si ça n'avait pas été bon, on n'aurait rien écrit, point. Je veux dire, il ne faut pas. Vraiment, il ne faut pas aller écrire, il ne faut pas aller casser du sucre sur le dos de quelqu'un qui se lance. Je veux dire, ce serait malveillant. Donc, ça n'est pas le but d'un guide. Pour répondre à votre question d'avant sur l'évolution des guides, alors je pense au contraire qu'il y a une place, d'ailleurs, on le vit actuellement avec le Gomio en Suisse, en tous les cas, on en a vendu plus d'exemplaires cette année que les années précédentes. Ça tient en fait qu'on a lancé un site internet, qu'on touche donc un public plus large et que, et j'espère qu'on va continuer à arriver à gagner la confiance d'un nouveau public parce que il existe plein de sites qui donnent des illusions de critiques ou de notations qui souvent sont, à mon avis, mais évidemment, je ne suis peut-être pas totalement objectif dans cette histoire, mais enfin malgré tout, qui sont à mon avis souvent un peu trompeuses, parce que en fait, on l'a vu, quand un restaurant londonien qui n'existe pas arrive en tête des restaurants de la ville.
Vous parlez de TripAdvisor, hein, donc quand le public critique.
Oui, alors je trouve que tout le monde a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est fondamental. En même temps, il faut éviter le lynchage public. Et puis, c'est ce que je crains avec un certain nombre de sites.
Jérémy Desbrons, on termine avec vous. Un mot quand même sur votre nouveau statut, la figure du chef de restaurant. Vous avez été sous-chef à l'hôtel de ville de Crissier, sauf erreur, auprès de Franck Giovannini. Mmh. Ce nouveau statut, qu'est-ce qui change pour vous et quelle place aura votre compagne Anaëlle Rose, qu'on n'oublie pas dans cette aventure ?
Pour moi, ça ne change rien. Parce qu'on était déjà très en contact avec la clientèle à Crissier. On recevait déjà tous les clients en cuisine. On a toujours eu l'habitude de saluer, de voir, de dire bonjour à tout le monde. Donc, mis à part peut-être l'aspect un peu plus administratif que j'ai à m'occuper, mon travail au quotidien, il n'a pas changé. C'est un travail de cuisinier, de chef, de responsable. C'est ce à quoi je m'applique à plus le faire en ce moment, parce que je pense que pour démarrer, c'est plus important. Et donc, voilà, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Après, ma compagne, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est une ancienne cuisinière. Elle a travaillé 10 ans dans la haute gastronomie. Et elle comprend tout ce qu'il y a dans l'assiette en un seul coup d'œil. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce qu'elle est capable d'expliquer aux clients, juste en regardant l'assiette, ce que j'ai voulu faire dans l'assiette. Et ça, c'est juste incroyable.
Elle met des mots sur vos intentions. Merci beaucoup, Jérémy Desbrons et Knut Schwander, d'être venus dans Place Publique. On vous souhaite un bon service ce soir. Bonne soirée à tous les deux. Un grand merci d'avoir participé à Place Publique.
Merci, pareillement.
Au revoir. Plein succès. Au revoir.
Merci, au revoir.
Place Publique. Et depuis lundi, nous vous proposons chaque matin de cette semaine une série de reportages réalisés au Liban. Notre correspondant parlementaire à Berne, Jérôme Favre, est parti au début du mois à la rencontre de réfugiés syriens. Ils sont 1,5 million de migrants à avoir fui leur pays en guerre pour le Liban, qui comptait jusque-là 4 millions d'habitants, le tout sur un territoire 4 fois plus petit que la Suisse, voilà pour les chiffres. Et ce soir, dans Place Publique, on vous propose un reportage long format consacré aux premières victimes de la plus grave crise humanitaire au monde, ce sont les enfants. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors avant de nous présenter votre reportage, celui qu'on va entendre dans un instant, un mot sur votre démarche. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous rendre sur place ?
L'idée, c'était de partir d'une abstraction, parce que finalement, quand on parle de la crise syrienne, que ce soit ce qui se passe en Syrie ou ce qui se passe aux alentours dans les pays limitrophes, c'est toujours quelque chose de très abstrait pour nous, journalistes, en premier lieu, et pour les auditeurs aussi. Et puis, quand on parle même de réfugiés syriens que la Suisse va accueillir, par exemple, le Conseil fédéral avait décidé à la fin de l'année dernière d'accueillir un nouveau contingent de 3000 Syriens, sauf erreur, ça a l'air d'être quelque chose d'abstrait, mais ce sont 3000 personnes, et l'idée, c'était de voir ces gens, de rencontrer ces personnes, de savoir ce qu'ils vivent un petit peu, et puis de mettre des visages et des voix aussi, puisqu'on est en radio, sur cette crise syrienne et sur le destin de ces personnes-là.
Alors, vous vous êtes rendu dans plusieurs lieux névralgiques, un centre d'aide sociale, une école, ou encore des installations provisoires où logent ces migrants. Qui vous a orienté dans ces endroits et qu'est-ce que ça vous a permis de constater, de nous faire partager ?
Alors, le voyage a pu être organisé avec l'aide de Caritas Suisse, donc j'ai pu accompagner des gens de Caritas Suisse qui se rendaient aussi au Liban. Ça m'a permis d'avoir accès au personnel de Caritas à Beyrouth et dans la vallée de la Beka, ce qui était déjà très intéressant pour avoir aussi des indications sur la situation globalement, ce qui se passe, comment réagit le gouvernement. Et puis, ça m'a permis aussi d'avoir accès à des réfugiés ou des déplacés, puisqu'ils n'ont pas le statut officiel de réfugiés, des déplacés syriens. Mais ce sont toujours des rencontres qui se sont faites par hasard ou par providence, selon le terme qu'on préférera utiliser. Ça a toujours été des gens rencontrés sur place, rien n'était prévu, et souvent des gens qui avaient envie de raconter leur histoire, avaient envie de témoigner pour qu'on sache quelle est leur réalité, ce qu'ils vivent, parce que la situation n'est pas merveilleuse, même quand on a quitté la Syrie pour s'installer au Liban.
Et ce soir, vous nous proposez un reportage long format consacré aux enfants avec ce constat. Un enfant né en Syrie après le 15 mars 2011 n'aura connu que la guerre ou l'exil.
C'est quelque chose d'assez terrifiant. D'ailleurs, même ceux qui sont nés un petit peu avant, on peut imaginer qu'un enfant de 4 ans aujourd'hui à 11 ans, peut-être bientôt 12, et n'a connu que la guerre ou l'exil, n'a peut-être même pas été scolarisé. Vous le disiez tout à l'heure au début, l'UNICEF a parlé de crise humanitaire la plus grave au monde pour les enfants, avec des milliers d'enfants aussi qui sont morts, qui ont été blessés, qui sont handicapés, qui sont traumatisés, des traumatismes qu'ils gardent avec eux, que ce soit en Syrie. Il y a eu 5 millions d'enfants déplacés à l'intérieur du pays, qui ont besoin d'une aide d'urgence, ou bien aussi ces centaines de milliers d'enfants qui ont fui vers l'Irak, la Jordanie, d'autres pays du Proche-Orient. Ils gardent aussi ces traumatismes avec eux. Alors certes, ils sont loin des combats, loin des hostilités, avec une paix toute relative finalement, mais une situation qui n'est pas forcément enviable.
Jérôme Favre, je vous propose qu'on écoute votre reportage.
Mon neveu, qui a presque 10 ans, ne peut même pas parler correctement à cause de ce qu'il a vécu à Raqqa.
Selon l'UNICEF, les enfants font partie des principales victimes de la crise syrienne. 7 millions d'entre eux ont dû fuir leur maison. Certains seuls, 10 000 ne seraient pas accompagnés d'un adulte. Et 500 000 enfants syriens se trouvent aujourd'hui au Liban. Markus Koth, responsable de programme à Caritas Suisse à Beyrouth.
Il existe à tout le moins un risque que toute une génération soit perdue. Beaucoup d'enfants ont été en fuite pendant des années et ceux qui ont fui récemment ne pouvaient souvent plus aller à l'école, faute d'argent, d'enseignants et d'école. Bien sûr, il y a de grandes lacunes et bien sûr, on ne pourra pas toutes les combler, mais amener les enfants à l'école, même pour une année ou deux, leur apporte un peu de normalité, leur permet d'apprendre à lire et à écrire, et rien que ça, ça a une grande valeur et ça fait une différence.
À l'école, nous y voici justement. En l'occurrence, à l'école Omar Fakouri, dans un quartier sud de Beyrouth, et quelquefois dans un joyeux tintamarre. Voici Mohamed, un enfant comme les autres. Ici, on joue au foot, à s'attraper, on passe du temps ensemble. Au foot, je suis attaquant ou gardien, nous raconte ce timide garçon de 12 ans, venu de Syrie il y a 10 ans. À l'époque, la situation était bonne là-bas, ajoute-t-il. Rama, elle, a 8 ans. Quelqu'un a attaqué le pays, alors papa a décidé de quitter la Syrie, nous explique-t-elle, en attendant de pouvoir y retourner. Rama, qui n'a pas toujours été scolarisée, dit aimer cette école, aimer participer, répondre aux questions, être la meilleure. Elle confie aussi s'occuper de sa petite sœur à l'école et de son petit frère à la maison, mais sa sœur aînée s'occupe bien plus d'elle. Comme tous les enfants, ces petits Syriens ont leurs rêves. Rama veut devenir monitrice de gymnastique. Mohamed aime dessiner et quand on lui demande ce qu'il veut être plus tard, la réponse fuse. Il veut être artiste.
J'ai un garçon en 6e, un en 4e, et l'aîné veut quitter l'école pour travailler et aider son père. Je fais de mon mieux pour qu'il n'arrête pas, mais on habite loin de l'école, ils ne prennent pas le bus, ils doivent y aller à pied.
Cette Syrienne de 32 ans, rencontrée dans un centre d'aide sociale de Caritas Liban, dans l'est de Beyrouth, nous demandera d'emmener son fils en Suisse pour assurer sa scolarité. Des situations de ce genre, Marilyn Baino, responsable du centre, en voit souvent passer, et des enfants aussi.
Surtout les enfants qui vont à l'école après-midi, et aussi il y a les enfants qui ne sont pas inscrits à l'école.
Vous voyez passer beaucoup de monde, mais comment est-ce que vont les enfants? Comment est-ce que vous les sentez, vous les voyez?
Ici, ils sont à l'aise, mais ils ont toujours dans leur tête qu'un jour, ils veulent revenir dans leur pays. Ils veulent être à l'aise dans leur propre maison là-bas, revenir à leur école s'ils étaient là-bas, dans des écoles.
Il y a des traumatismes aussi. Est-ce qu'il y a on peut imaginer, hein, il fut un pays en guerre. Il y a une composante psychologique à gérer aussi. Ça ne doit pas être un travail facile qui se fait ici.
Non, bien sûr, non. Il y a beaucoup de dessins qu'on peut voir, qu'il y a beaucoup de traumas, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu ce trauma. On peut les envoyer pour voir des psychologues et avoir cette aide psychosociale, si on veut dire.
Il y a aussi sur une partie du mur quelques dessins où on voit un footballeur, un médecin, un ouvrier.
Ça, c'est les ados du centre ici qui ont fait maintenant durant la nouvelle année qu'est-ce qu'ils vont être quand ils grandissent. Donc ça, c'est leur des ambitions. Ils espèrent être un jour comme ces personnes-là.
Ce sera possible.
Ils espèrent en fait, mais c'est pas sûr parce que plein d'eux n'ont pas continué leurs études et peut-être ils ne pourront pas aller dans des universités et peut-être ça reste seulement un rêve.
Yes. Yeah. That's it. Yes.
Quittons Beyrouth pour Zaleh, à 2h30 de route en raison de bouchons dus à la neige. Dans la vallée de la Beka, des familles vivent dans des installations provisoires, souvent illégales. Maskine, son mari et ses trois jeunes enfants vivent au fond d'un vignoble.
Je vis dans une situation financière très difficile. Mon mari n'a pas de travail et mes enfants ne sont pas scolarisés. Ils aimeraient aller à l'école. Quand ils se lèvent le matin, ils mettent leur cartable, ils dorment même avec.
Et en effet, Mustapha, du haut de ses 6 ans, fait irruption dans la pièce, sac au dos, tout comme sa sœur Fatouma, 4 ans.
Je joue avec mes enfants, parfois on mange. S'ils ont envie de chips, j'achète un paquet pour les trois. Si on était en Syrie, peut-être que ce serait mieux. Mais si on reste au Liban, l'avenir ne sera pas rose. Les conditions sont difficiles. Les enfants ne cessent de me demander des choses que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas nous offrir. Ils me demandent pourquoi d'autres enfants ont ces choses ou mangent telle ou telle chose. Qu'est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce que je pourrais encore vendre pour subvenir à leurs besoins? La télé est en panne, je fais la lessive à la main, on n'a plus rien à vendre.
La petite dernière, Juliana, chantonne.
La situation est vraiment dure. J'espère que les pays nous aideront à ramener la sécurité en Syrie pour qu'on puisse y retourner.
Un peu plus loin, au bord d'une route et d'une rivière, se succèdent des camps, assemblages de tentes de fortune. Nous faisons halte devant le camp 004. 33 familles y vivent, peut-être plus. Des enfants se promènent, d'autres jouent, certains nous font des signes.
Dans les derniers 7 ans, le Liban a réussi à intégrer environ 250 000 enfants à l'école.
Karen Roberts est responsable de programme éducatif à Caritas Suisse à Beyrouth.
Mais il y a le même nombre qu'on n'a pas pu intégrer juste parce qu'on n'a pas physiquement assez d'espace pour eux. Et c'est toute une génération qui n'a pas les mêmes chances, qui n'arrivera même pas à pouvoir lire et écrire.
Il y a des cas qui sont perdus pour lesquels on ne peut rien faire parce que ni le gouvernement ni les ONG ne peuvent être partout. C'est 250 000 enfants qui n'ont pas pu être intégrés.
C'est une question difficile. Je voudrais dire que ce genre de cas n'existe pas. Mais malheureusement, ça arrive.
Et c'était votre reportage, Jérôme Favre. Merci infiniment. Demain, vous nous proposez un nouvel épisode de votre série.
Oui, eh bien, on ira voir un peu de plus près dans quelles conditions vivent justement Maskin et ses trois enfants, dont Juliana qu'on entendait chanter tout à la fin. Ce sera un reportage donc dans cette installation provisoire au fond d'un vignoble dans la vallée de la Beka.
Merci Jérôme. Un reportage donc à découvrir dans la matinale de RJB, RTN et RFJ. Dès demain matin, 6h, le tout sera disponible bien sûr en fin de semaine sur nos sites internet. Merci encore infiniment et bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Et c'est tout pour Place Publique. Merci à Yannick Frossard qui en a assuré la réalisation. Cette émission sera disponible tout à l'heure sur nos pages web RJB, RTN et RFJ.ch ou sur nos applications smartphone.
Place Publique.